Amis auditeurs, bienvenue. Vous êtes sur afropanorama.com et vous écoutez Entrevue. Notre invité aujourd'hui s'appelle Patrick Mbeko. Vous est présenté avec le soutien de Easy Cargo Fret International. Le monde est à vous. Merci de nous rester fidèles et de nous suivre sur différentes plateformes. N'hésitez surtout pas à partager cette vidéo sur YouTube pour nous permettre une meilleure visibilité. N'hésitez pas non plus à vous abonner à notre chaîne. Notre invité Patrick Mbeko revient sur l'adresse à la nation du président Félix Antoine Tshisekedi, diffusé sur les antennes de la télévision nationale le dimanche 8 septembre dernier. Pour lui, mis à part la musique de fond qu'il a appréciée, cette intervention est une médiocre opération de communication. Bonne écoute à tous.
Patrick Mbeko, bonjour.
Bonjour, Magloire.
Merci d'accepter de répondre à nos questions. Je veux rapidement vous présenter. Vous êtes journaliste d'enquête, politologue. Vous êtes auteur de plusieurs ouvrages, nous allons en citer quelques-uns. Stratégie du chaos et du mensonge, poker menteur en Afrique des Grands Lacs, co-signé avec Honoré Ngwanda. Vous avez aussi publié Le Canada et le pouvoir Tutsi du Rwanda, deux décennies de complicité criminelle en Afrique centrale, aux éditions de l'Érablière. Et votre dernier ouvrage en date, si je ne me trompe pas, s'appelle Objectif Kadhafi, 42 ans de guerre secrète contre le guide de la Jamaïria arabe libyenne. Vous êtes politologue, je l'ai dit tantôt, et vous êtes un observateur attentif de relations internationales, mais aussi de la vie politique congolaise. Et c'est pour ça que nous vous invitons aujourd'hui, parce qu'il y a deux jours, le dimanche soir, le président Félix Antoine Tshisekedi s'est adressé à la population congolaise via la télé. L'annonce a été faite à 20h. Nous allons écouter quelques minutes le discours du président Tshisekedi et ensuite nous allons, au-delà des passions, essayer d'analyser objectivement ce qui a été dit et essayer d'en tirer les conclusions qui s'imposent. Donc on va écouter ce discours et je reviens à vous dans quelques minutes.
Frères et sœurs congolais, lorsque je suis arrivé au pouvoir, le pays était dans une situation de crise. À la suite d'une longue période d'instabilité politique et d'incertitude, l'élection présidentielle qui a consacré notre victoire, votre victoire, continue de susciter beaucoup d'espoir partout dans notre pays et même au-delà de nos frontières. Le jour de mon investiture, je vous ai bien entendu me rappeler « Félix, papa Lobaki, le peuple d'abord. Les défis de notre pays sont immenses. Les problèmes sont multiples, mais il n'est pas impossible d'y remédier et de commencer ainsi à changer les choses, à changer notre mode de vie en société. Pour engager le changement, dans le contexte politique particulier de la période après l'investiture, nous avons commencé à travailler avec les moyens à notre disposition. Pourquoi ? Parce que face au désir ardent de changement immédiat qui traverse tout le pays, nous nous avions décidé de ne pas croiser les bras en spectateur passif. Pourquoi ? Parce que quand on veut changer les choses, on n'attend pas de réunir toutes les meilleures conditions. Nous avons lancé le programme des 100 jours. Ce programme ne va sûrement pas résoudre tous nos problèmes en quelques mois, mais il est un début de solution. Nous avons commencé à doter nos villes de certaines infrastructures routières et d'apporter les réponses dans la production agro-industrielle ainsi que dans le domaine de la santé et dans bien d'autres. Nous avons ouvert plusieurs chantiers un peu partout. Ces chantiers, une fois finalisés, vont soulager déjà quelques-uns de nos problèmes. Certains d'entre nous pourront ainsi rentrer plus tôt chez eux et sans subir le stress des embouteillages, ou voyager plus facilement d'une ville à une autre, ou évacuer plus rapidement leurs produits et les acheminer vers d'autres marchés pour les vendre plus vite. D'autres vont enfin avoir accès à l'éclairage public, à l'électricité, à l'eau dans leurs habitations. Le programme des 100 jours nous donne la preuve que par notre volonté seule, nous pouvons trouver des solutions à nos propres problèmes et surtout apporter des changements positifs à notre cher pays. Le grand changement que nous attendons, le changement que vous souhaitez, ne sera possible que si chacun de nous tous, Congolaises et Congolais, adopte la même attitude responsable face aux problèmes et défis qui sont les siens, qui sont les nôtres. Le vrai changement commence par chacun et chacune d'entre nous. Nous devons changer et incarner le changement partout où nous sommes pour que le pays évolue. Aussi petit soit l'impact de l'action que vous pouvez prendre là où vous êtes, elle reste importante pour atteindre l'objectif, le changement. À ceux qui sont responsables de la gestion des affaires publiques, le premier signe visible du changement sera celui de votre comportement, de votre compétence dans la gestion de la mission qui vous est confiée par le peuple congolais. Nous sommes au service exclusif des Congolaises et des Congolais. Sachons désormais travailler pour le changement de notre pays. Mes chers compatriotes, chers frères et sœurs, je rêve d'un Congo meilleur. Nous avons le devoir de construire un Congo meilleur où tous les enfants, filles et garçons, ont droit à l'éducation, à la santé. Un Congo où aucun enfant ne dort dans la rue ni ne meurt de faim. Un Congo où toute personne orpheline, veuve, vulnérable ou vivant avec handicap est accompagné par les institutions de l'État. Un Congo débarrassé de la haine et du tribalisme. Un Congo où nos femmes ne sont plus violées tous les jours. Un Congo où il n'y a plus de guerre. Un Congo où il n'y a pas une province contre une autre province. Un Congo où il n'y a pas ceux de là-bas et ceux d'ici. Un Congo où il n'y a pas ceux d'une église contre ceux d'une autre église. Un Congo, il n'y a pas un camp politique contre un autre camp politique. Je veux un Congo où il n'y a qu'un seul camp, le camp des Congolais unis et fiers de notre riche diversité. Un Congo de changement des mentalités. Nous avons le devoir de porter le grand rêve et de redonner de la grandeur à notre pays. De bâtir un Congo debout et digne. Un Congo des travailleurs responsables, vigilants et gardiens de nos lois. C'est le Congo que je veux pour nous tous. C'est ce Congo-là, notre Congo, pour lequel vous m'avez donné le mandat. Ce Congo est possible si nous acceptons de changer dès à présent. Oui, ce Congo est possible. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo.
Patrick Mbeku, globalement, qu'est-ce que vous avez pensé de cette prestation du chef de l'État congolais?
En tout cas, la seule chose que j'ai appréciée, c'est la musique de fond. Pour le reste, je pense qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. On a assisté à une communication qui, de mon point de vue, était très, très mal ficelée. On n'apprend pas grand-chose. Et ce qui est surprenant, c'est que M. Félix Tshisekedi nous parle de une demande aux Congolais de changer de mentalité alors qu'il est lui-même empêtré dans une affaire de détournement de fonds sur lequel, je crois, nous reviendrons.
Votre premier commentaire intéressant, vous dites n'avoir apprécié que la musique de fond. on est là dans l'esthétique, dans le ressenti, dans les sentiments. Est-ce que vous diriez ou vous avez l'impression comme d'autres que ce discours s'est placé plutôt dans le registre de l'émotionnel que dans le registre du rationnel?
Ben, effectivement, parce qu'il commence par dire mes frères et sœurs, oui, nous sommes ses frères, oui, nous sommes peut-être, oui, nous sommes ses frères, il y a ses sœurs aussi. Mais là, il est supposé être le chef de l'État qui s'adresse à ses compatriotes. Donc, on est dans le registre de l'émotionnel ça ne marche pas pour quelqu'un qui est à la tête du pays. Ça fait quand même 8 mois que Félix est là, on a l'impression, en l'écoutant, en écoutant sa dernière sortie, qu'il n'a pas encore endossé le costume de président de la République. Mes frères et sœurs, c'est bien, mais c'est d'abord compatriote, parce qu'il est le chef de l'État, même s'il est arrivé au pouvoir dans les conditions que nous savons. Je pense qu'il doit se faire à l'idée qu'il est maintenant à la tête du pays et non continuer à jouer sur les émotions. Voilà.
À vous entendre parler, vous avez l'impression qu'il n'a pas encore mis son costume de chef de l'État, c'est ça?
Non, pas encore. Il n'a pas encore mis son costume de chef de l'État. C'est très clair et on peut le voir dans sa façon de se comporter depuis qu'il est arrivé là. Depuis janvier 2019, Félix se comporte toujours comme cet opposant de l'UDPS, ou en tout cas ce militant de l'UDPS. Là. Ce n'est pas un chef d'État. Et on le voit, sa sortie, ses sorties, ses discours, ses postures reflètent non pas l'image d'un chef d'État, mais bien d'un militant de parti. Et quand il s'adresse aux Congolais en disant « mes frères et sœurs », je comprends où ils vont en venir, mais il doit comprendre qu'il est le chef de l'État. Le mot le plus approprié de mon point de vue, c'est « chers compatriotes ». Voilà.
À supposer que le ton émotionnel de ces discours ait été pleinement assumé et que ces services de communication aient volontairement décidé de présenter au peuple un discours basé sur ce registre-là, quel est l'intérêt ou quel intérêt ils auraient à parler plutôt aux émotions des Congolais plutôt qu'à leurs raisons?
Oui, mais d'abord, quand on parle aux émotions, c'est parce qu'on veut anesthésier d'une certaine manière toute capacité de réflexion. Et quand on fait appel à l'émotion, c'est aussi parce qu'on évite, on ne veut pas que les gens soient dans la rationalité la plus absolue. Et dans ce cas-ci, on peut faire appel à l'émotion pour emmener les Congolais à regarder ailleurs, parce que comme je l'ai souligné précédemment, son gouvernement est plongé dans des affaires de corruption à répétition. Alors, au lieu d'insister sur cela, on peut faire appel à l'émotion, on peut utiliser une sémantique alambiquée pour que les Congolais ne puissent pas regarder dans la bonne direction, pour que les Congolais ne puissent pas privilégier l'essentiel. Et malheureusement pour eux, les gens ont rapidement compris que c'est une opération de communication qui n'avait pour seul objectif que d'essayer de redorer l'image d'une personne qui est de plus en plus empêtrée dans des scandales à répétition. Donc, l'émotion sert avant tout à anesthésier toute capacité de réflexion. Et sur ce point-là, je pense qu'ils ont, ça n'a pas marché.
Félix Tshisekedi a commencé son discours en rappelant cette célèbre phrase de son père, « Le peuple d'abord ». Au moment où il y a ce scandale autour de 15 millions, est-ce que cette prestation pourrait faire partie d'une stratégie pour détourner le public de ce scandale qui n'en finit pas depuis quelques semaines? Est-ce que c'est une sorte d'écran de fumée qu'on lance dans l'opinion publique?
Bon, depuis le début, ils ne font que ça. Hein? Depuis le début de la mandature de Félix, on assiste à ce genre d'opération qui, du reste, est très mal montée. En tout cas, la dernière opération est très, très mal montée. Quand on passe, on rappelle les 100 jours parce que, bon, on rappelle le bilan des 100 jours, ceci, cela, et parallèlement à cela, il y a des scandales. Bon, il y a un problème. Quand vous dites le peuple d'abord, c'est une bonne chose. Mais comment voulez-vous que l'on prête foi ou que l'on accorde le bénéfice du doute à un gouvernement de 65 ministres, à une présidence qui a plus de 100 conseillers, un pouvoir qui est empêtré dans des scandales de corruption à répétition. Le peuple d'abord, c'est les slogans, c'est comme un peu faire appel à l'émotion. Ça sert à détourner de l'essentiel. Et malheureusement, on assiste à ça depuis l'arrivée de Félix au pouvoir.
Le président de la République a essayé de faire une sorte de bilan. On va y revenir tout à l'heure, mais je voudrais qu'on parle pour l'instant un peu de la forme de ce discours-là. C'était une adresse à la nation du président de la République, mais nous n'avons pas vu de drapeau ni d'armoirie du pays. On a eu l'impression qu'il se faisait filmer dans son salon. Il s'est adressé aux Congolais en disant « nos frères et sœurs », on l'a dit « chers frères, chères sœurs », on l'a dit tout à l'heure. Il y avait une musique de fond que vous avez appréciée apparemment. Et donc, on était très loin de la prestation solennelle d'un président de la République. Et sur Twitter, j'ai vu une discussion entre journalistes où on faisait se remarquer que la prestation du président manquait de solennité. Et Tina Salama, qui travaille dans le service de communication du président de la République, a répondu en disant « c'était une posture assumée, nous voulions que ce discours soit convivial ». Qu'est-ce que vous en pensez?
Non, c'est... Bon, y a un problème d'amateurisme au sommet de l'État. Et quand on commet une erreur, quand on fait une erreur, on l'assume. C'était juste une erreur. Y a beaucoup d'amateurisme. Convivial, ce n'est pas... Si on mettait un drapeau, la discussion ou l'échange n'allait pas être convivial, ou la vidéo n'allait pas être conviviale, ou ça n'allait pas créer un climat de convivialité entre Félix Tshisekedi et les Congolais. C'est un argument aussi idiot, pardon, excusez-moi, mais c'est un argument qui est très idiot. Le problème, c'est qu'ils n'ont pas pensé à ça. Ils ont fait les choses comme d'habitude, comme des amateurs. Ils nous ont habitués à ça, qu'ils assument. Il n'y a pas de drapeau. La posture était problématique. La musique de fond était problématique. Moi, je l'ai appréciée. Bon, après, par rapport à l'événement, je trouve qu'il n'était pas approprié. Je crois qu'il faut apprendre à se regarder, à se remettre en question. Quand on fait des erreurs, on essaie de les corriger que de s'enfermer dans un dogmatisme imbécile, comme ils ont pris l'habitude de nous habituer. Là, c'est ça le problème. Cette sortie était problématique à tout point de vue, autant sur le plan de la forme que du fond. Il y a un problème là. Il y a un problème. Si des gens à la présidence sont incapables de monter une opération de communication aussi simple, imaginez-vous quand il est question de traiter les affaires les plus importantes de l'État. Parce que c'est comme ça que je le vois. Quand on voit un tel niveau d'amateurisme, qu'est-ce qu'on peut attendre d'un tel gouvernement? On va dire oui, c'est l'équipe de la communication, mais depuis janvier, on n'assiste qu'à ce genre de choses. On a vu Félix Tshisekedi aller inaugurer une passerelle de 30 mètres quand même. Avec plus de 60 personnes, il y avait les mêmes là qui faisaient de la communication, qui nous présentaient ce petit pont-là en nous disant « voilà, ça fait partie des temps ». Il y a un problème. Il y a un problème. On n'a pas des professionnels autour de Tshisekedi. Il n'y a pas de professionnels autour de Tshisekedi. Donc pour moi, cette vidéo est à l'image des gens qui gravitent autour du pouvoir actuel.
Pourtant, dans ce service de communication, j'ai cité Tina Salama, c'est une journaliste, une ancienne de Radio Okapi, si je ne m'abuse. Il y a Kasongo Mwema, qui est professeur de journalisme et qui a été sur RFI, un ancien de la RTNC. Qu'est-ce qui peut expliquer qu'avec des gens comme ça, qui sont techniquement formés pour faire ce travail, on en arrive à des résultats que vous jugez pas à la hauteur?
Ben, vous savez... Je pourrais vous répondre peut-être une digression de ma part, vous allez m'excuser, mais je pourrais dire que autour de Kabila, il y a des grands professeurs d'université et puis on a les résultats qu'on a. Le problème, on peut avoir quelqu'un qui est passé par Radio Capi ou un monsieur qui est un ancien journaliste d'RFI. Cela n'enlève en rien le fait qu'on peut voir que ces gens-là, en tout cas, depuis qu'ils sont autour de Félix, ils n'ont pas apporté quelque chose de plus consistant. Ça, c'est mon point de vue. Et puis, il faut comprendre aussi que la communication évolue. la communication des années 90, des années diffère de la communication des années 2000. La communication du début des années 2000, diffère de ce qui se fait aujourd'hui avec l'émergence des réseaux sociaux, par exemple. Et ça ira en évoluant même demain, parce que la communication d'aujourd'hui ne sera nécessairement pas la communication de demain. Alors, si ces gens-là ont évolué dans un système passé qui ne reflète pas les réalités d'aujourd'hui, ne vous attendez pas à ce qu'ils fassent des miracles. Ils vont faire ce qu'ils savent. Et ils évoluent dans un environnement qui est quand même assez médiocre. Quand moi, je vois le vœu Mouima, certaines de ses interventions pour justifier certaines âneries que je vois là, à la présidence, je me dis, bon, il n'y a plus d'espoir pour ce pays, même si nous devons continuer à espérer. Il y a tout ça qui entre en ligne de compte. Quelqu'un qui était à Radio Capi et qui se justifie en disant, bon, on n'a pas mis le drapeau pour des raisons que vous avez avancées tantôt, ça pose problème quand même. Donc pour moi, le fait de faire Radio Capi ne veut rien dire. Moi, ce que je veux voir, c'est la manifestation d'une expertise avérée. C'est ça qui est le plus important. Et c'est ce que j'aime chez les Nord-Américains. Ce n'est pas de me dire, mais oui, moi j'ai fait ça, moi j'ai tel diplôme. Montre-nous ce que tu es capable de faire. Pour l'instant, l'équipe de communication est médiocre. Voilà.
Je rappelle que notre invité s'appelle Patrick Mbeko, politologue, auteur et écrivain. Et vous êtes sur afropanorama.com, vous écoutez Entrevue. Patrick Mbeko, parlant de son programme de 100 jours, le président Tshisekedi a dit, entre autres, que ce qu'il a fait est un début et on va arriver à des résultats du genre que des personnes pourraient arriver à la maison à temps et n'auraient pas affronté des embouteillages. Il y aura de l'eau potable à la maison, de l'électricité. Globalement, qu'est-ce que vous pensez que ce programme de 100 jours a apporté ou va apporter au pays ?
Bon, on doit déjà dire à apporter parce qu'on a parlé des 100 jours et les 100 jours sont passés. Maintenant, on peut dire qu'il y a eu des petits pas qui ont été faits. On ne peut pas non plus dire qu'il n'y a rien qui a été fait. Ça serait très malhonnête de ma part. Ils ont essayé de faire quelques petites choses, mais au regard des enjeux, au regard des défis, au regard de la problématique, de la pauvreté, au regard de tout ça, je pense que c'est une goutte d'eau dans l'océan. Et puis, on a constaté aussi que les 100 jours ont plutôt permis aux tenants du pouvoir actuel de détourner des millions de dollars de fonds publics. C'est-à-dire qu'on s'est appuyé sur la misère des Congolais pour vider les caisses de l'État. Le scandale des 15 millions est un exemple parmi tant d'autres. Donc, les 100 jours, pour moi, c'est une goutte d'eau dans l'océan. Le gros reste à faire. Est-ce que le pouvoir actuel sera capable d'exploits? J'en doute fort. Quand la prémisse est biaisée, il ne faut pas s'attendre à des résultats positifs d'une certaine manière. Je crois qu'il y a Il y a un problème d'homme, en réalité, dans ce pays-là. Alors, si on ne change pas nos façons de faire, rien n'évoluera. Si on continue à dilapider les deniers publics au prétexte qu'on travaille au développement du pays, on se ment soi-même, là. Le pouvoir actuel, pour moi, ne produira rien de bon. Les 100 jours sont une catastrophe, même s'il y a des petites choses qui ont été faites, mais c'est une catastrophe parce que de sortir le pays de la misère, bon, pas totalement, mais que d'essayer au moins de sortir le pays de la misère, on s'est plutôt servi de la misère de la population pour vider les caisses de l'État. Ça, c'est les 100 jours. Le vrai bilan des 100 jours, c'est vraiment la dilapidation des deniers publics par l'équipe gouvernementale actuelle. Donc, je parle ici de Félix Tshisekedi, de son directeur de cabinet, et de tout ce monde qui gravite autour d'eux.
Est-ce qu'on a des éléments de preuve attestant que réellement de l'argent a été détourné et attestant que réellement le président Tshisekedi lui-même serait impliqué dans ces détournements?
Oui, on a des preuves et on a beaucoup de preuves. Il faut dire que, à la différence de ce qui se faisait avec Kabila, où l'information fuitée mais à, à compte-gouttes avec les Tshisekedi, c'est vraiment c'est quotidien. On reçoit tous les jours des appels, on reçoit des documents. Et il y a des choses qu'on ne dit pas simplement parce qu'on veut protéger des sources, parce qu'on ne veut pas que les gens aient des problèmes. Mais même, on a vu, même sur les réseaux sociaux, des documents circuler qui attestaient de la manière dont les choses sont en train de se faire là, hein, au sommet de l'État. On a vu la note signée Vital qu'Américain demande à la Banque centrale de décaisser 2 500 000 dollars pour le mausolée, le feu de Tshisekedi. Tout ça pose problème. On a vu des documents sur des contrats de gré à gré. On sait à qui ça a été destiné. On a tous les éléments, on a toutes les preuves. Et dans l'affaire de 15 millions, par exemple, on sait maintenant que Félix Tshisekedi lui-même aussi a joué son jeu. Il n'y a pas que Vital Kamerhe. Et on le sait de sources sûres, là. Quand je dis de sources sûres, on le sait. On le sait très bien. Les preuves existent. C'est qu'il faut que les gens sachent. Les preuves existent. Et Kingakati est au courant de tout, je peux vous confirmer.
Qu'est-ce que cela pourrait avoir comme conséquence de la vie politique dans les semaines, les mois ou les années à venir?
Mais d'abord, les tenants de la farce, ce sont les Congolais. Mais après, il y a une guerre interne aussi, hein, entre le FCC et Cash, même si on ne le dit pas ouvertement. D'après ce que je sais, Joseph Kabila veille au grain et il suit tout ce qui se passe. Et tous ces détournements de fonds pourraient jouer contre Cash à l'avenir. Il ne faut pas oublier que le rôle du Parlement est de contrôler l'exécutif et ce Parlement est un repère des gens du FCC. Donc, le moment venu, ces gens-là vont exiger du pouvoir exécutif de montrer patte blanche et cela pourrait même emmener à un renversement du gouvernement. Tout est possible maintenant. Je pense que les gens qui sont au pouvoir, l'équipe de Tshisekedi a donné beaucoup d'éléments aux kabylistes. Ils ont donné en tout cas le bâton aux kabylistes pour se faire battre. Mais Kabila va prendre son temps.
On va revenir au discours. Il y a un moment, il a beaucoup parlé du changement de comportement, du changement dans la gestion des affaires publiques. On avait l'impression d'écouter une exhortation, à la limite, dans laquelle il disait que tous et chacun devait être acteurs de changement là où ils sont. Et le président s'est mis à rêver, un peu comme Martin Luther King, d'un Congo meilleur. Vous n'êtes pas prêt de rêver avec lui?
Mais on peut rêver, mais en autant que les gestes suivent. Parce que vous pouvez dire, oui, on va faire du Congo un paradis. On peut citer Martin Luther King et en même temps piller le même Congo avec un groupe de gens. Aujourd'hui, la famille Tshisekedi s'est plus qu'enrichie. Hein? On voit les Tshisekedi faire n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui est proche d'ailleurs de Tito Félix qui me disait encore il y a quelques jours, il dit, mais c'est très grave parce que Bazoï Banandenga il y a des ordres. Donc ça vous donne une idée. Maintenant, il y a le discours, oui, mais après, il faut que les gestes suivent aussi. Moi, je suis d'accord avec lui hein, quand il dit qu'il faut changer, il faut qu'il y ait un changement de mentalité, il faut construire le Congo, l'homme congolais doit changer. Je suis totalement d'accord avec lui. Mais que fait-il lui-même? Dans les faits, sur le plan pratique, que fait-il? C'est dilapider les deniers publics. Des gens qui sont arrivés au pouvoir avec rien du tout et qui se retrouvent du jour au lendemain des multimillionnaires, après 8 mois à la tête du pays, c'est quoi le salaire d'un président? C'est quoi le salaire d'un directeur de cabinet pour que tous ces gens s'enrichissent, enrichissent leur famille, qu'il y ait des membres de leur famille qui font n'importe quoi, au vu et au su de tout le monde? C'est le discours, c'est bien, mais il faut que les gestes suivent. Et pour l'instant, ça ne suit pas.
On remarque c'est quand même assez curieux, assez constant comme phénomène. Dès que les gens arrivent au pouvoir, ils créent des fondations, des ONG, et ils se mettent à distribuer des biens. Le dernier en date, c'est Jean-Marc Abound qui a donné des articles scolaires à des élèves d'un quartier de Kinshasa. C'est vrai que chez nous, on n'a pas trop tendance à, même si les gens posent des actes de générosité, entre guillemets, c'est quand même intéressant d'avoir une traçabilité de cet argent. Ça va dès le début au moment même de l'enregistrement pour les élections, par exemple, parce que 100 000 dollars, ce n'est pas donné. Comment est-ce qu'il y a des gens dans un pays pauvre arrive à avoir 100 000 dollars aussi facilement donnés comme caution non remboursable et par la suite avoir fondation par-ci, ONG par-là et distribuer de l'argent à la population sous forme de d'actes de générosité.
Ben c'est simplement parce que ce sont des fonds, ce sont des voleurs, ces gens-là, c'est comme ce qu'il faut les appeler. Il faut pas utiliser d'autres mots. Ce sont des gens qui se servent, qui vont se servir de l'État, qui vont se servir des Congolais comme marchepied pour avancer leurs propres agendas. Distribuer des manuels scolaires, c'est bien, mais encore faut-il que ces manuels scolaires aient été achetés quand même avec des fonds propres ou de l'argent propre. Mais si c'est quand c'est. En fait, on se sert de l'argent des Congolais pour donner des manuels aux Congolais, il y a des Congolais qui acclament. Alors, on est en train d'abrutir la population, de faire d'elle, en fait, une sorte de marchepied et on lui impose n'importe quoi. Non, cette histoire de fondation, déjà, devrait être encadrée par l'État. Mais ce n'est pas encadré puisque c'est déjà, ça commence au sommet de l'État. La femme, l'épouse, pardon, de Félix Tshisekedi a une fondation. D'où proviennent les fonds? Est-elle capable de nous dire qu'elle a reçu des fonds de tel organisme ou de telle banque ou je ne sais quoi? Est-elle capable au moins de dire aux Congolais, voici l'origine des fonds que j'utilise dans ma fondation? Les fondations sont devenues des cache-sexes, des pilleurs de l'État. C'est aussi simple que ça. C'est ce qui est en train de se passer. C'est malheureux. On se sert des fondations, des nobles causes pour faire des choses qui sont très sales, pour marcher sur la population, pour l'appauvrir davantage. C'est ce qui est en train de se passer.
On va aborder un dernier thème dans le discours du président Tshisekedi. Donc, dans son rêve, il rêvait d'un Congo où il n'y aurait pas de tribalisme, où il n'y aurait pas de guerre, où il n'y aurait pas de viol. Un Congo où aucune province ne serait contre une autre province, où aucune église ne serait contre une autre église. Et où aucun camp politique ne serait contre notre camp politique, on devait être tous dans un même camp, celui du Congo.
Mais on peut appartenir à son parti politique et être dans le camp du Congo. On peut, c'est comme, en fait, c'est un argument qui est assez stupide, excusez-moi l'expression. Mais même si je comprends en fait le fond de sa pensée, mais cette pensée peut aussi cacher d'autres choses.
Quel est-il le fond de sa pensée à votre avis?
Cacher des intentions assez obscures. Parce que quand on parle d'être le tribalisme, nous sommes tous contre le tribalisme. D'ailleurs, ceux qui font la promotion du tribalisme à volonté, ce sont les partisans de l'UDPS, plus particulièrement certains compatriotes du Kassai. Mais on peut aller plus loin. Quand Félix Tshisekedi dit qu'on doit faire partie de la même famille politique, bon, pas nécessairement, ça, c'est pas les mêmes mots qu'il utilise, mais quand on dit qu'il faut qu'on fasse du Congo... notre dénominateur commun, oui, mais à quel prix? Et c'est ça, qu'est-ce qu'il sous-entend quand il parle même du tribalisme? Parce qu'on peut pousser le raisonnement plus loin en disant qu'au-delà des tribalistes que nous connaissons là, il y a un autre problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui, c'est celui de Banyamulenge. Nous avons entendu Jeannette Kabila nous dire là-bas que le Congo a 5 langues nationales. Elle nous a parlé de faire des recensements, mais tout ça là, ça culmine à quoi en fait? C'est quoi l'idée de fond? Qu'est-ce qui se cache derrière tout ce discours-là en apparence salutaire là? C'est la question qu'il faut se poser. Moi, je ne veux pas attribuer des pensées obscures aux gens, mais quand je l'entends parler, il y a des raisons. Je ne peux qu'émettre une certaine réserve parce qu'au regard de la situation actuelle à laquelle le pays est confronté aujourd'hui, avec cette affaire de Banyamulenge et tout le reste, avec... la coalition cache tout ce que nous voyons. Ce que Félix nous demande peut-être, c'est de fermer les yeux sur les dérives à venir. C'est ce que je suis, moi, c'est ce que je comprends en fait de tout ça. Le fond de sa pensée, c'est de dire aux Congolais, mais écoutez, taisez-vous, fermez vos yeux, laissez-nous faire avec et les Banyamulenge et les Roubards de ce monde et le FCC de ce monde, laissez-nous, faites-nous confiance, laissez-nous faire, mais c'est très dangereux. On peut comparer, au regard de ce discours, on peut se rapporter à ce qu'il avait dit une fois pendant les négociations qui devaient conduire à la mise en place du gouvernement et le Kamba. Qu'est-ce qu'il avait dit par rapport aux FCCistes? Il avait dit, il se pourrait que vous voyez des visages, mais ne regardez pas le visage des gens et tout ça, essayons de travailler, on va travailler, je veux m'assurer. C'était une façon de dire aux Congolais, écoutez, il se pourrait qu'il y ait des gens dans mon gouvernement qui aient appartenu au camp d'en face, qui ont travaillé par le passé dans les gouvernements passés, mais ne regardez pas ça, regardez l'avenir. Pardon, c'est très hypocrite et dangereux, en fait, ce qu'il demande aux Congolais. Le fond de sa pensée, de mon point de vue, se résume à une chose. Taisez-vous, laissez-nous faire avec ceux qui ont détruit le Congo et ceux qui continuent de détruire le Congo.
Au final, Patrick Mbeko annonce à la Nation, spot de campagne ou opération publicitaire à faible coût?
Je dirais manœuvre de communication d'une médiocrité remarquable.
Patrick Mbeko, merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Amis auditeurs, merci d'avoir été à l'écoute. Nous recevions Patrick Mbeko, politologue et auteur de plusieurs ouvrages, notamment le dernier concernant le président Kadhafi. Je vais citer son titre, « Objectif Kadhafi » paru aux éditions Libre et Pensée. Patrick Mbeko, merci. Et à ceux qui nous écoutent, merci de nous rester fidèles. Ceux qui nous suivent sur YouTube, n'hésitez pas à liker notre vidéo et à partager, ce qui nous permettrait d'avoir un meilleur référencement.
Vous êtes sur afropanorama.com et vous venez de suivre Entrevue avec Patrick Mbeko. Merci et à la fois prochaine.